Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Raymond Barre, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de faire profiter Canal Académie des analyses qui sont les vôtres. Et on sait qu'en matière économique, elles sont pertinentes. Peut-on rappeler, doit-on rappeler que vous êtes ancien Premier ministre de 76 à 81, membre de l'Institut bien sûr, et c'est en ces locaux que nous avons le plaisir de vous interroger. Sur ce premier volet qui concerne la mondialisation, est-ce qu'on peut déjà commencer par avoir votre définition ? Est-ce que vous avez une définition personnelle, intime de la mondialisation ? Quand vous avez pris le pouvoir en 76 en tant que Premier ministre, c'était il y a 30 ans déjà.
Il y a 30 ans.
Ça existait ou pas ?
On ne parlait pas encore de mondialisation. Encore que tous ceux qui suivaient l'évolution des faits économiques, sociaux et politiques à l'échelle du monde se rendaient compte que ce phénomène de mondialisation allait se généraliser. Qu'entend-on par là ? C'est le développement des relations économiques, financières, sociales et politiques favorisées par les technologies modernes qui sont celles des technologies spatiales et par ailleurs l'ordinateur.
La révolution informatique.
La première manifestation de la mondialisation, ça a été par l'intermédiaire des ordinateurs et des satellites. La possibilité d'avoir des transactions tout le long de la journée.
En temps réel.
Qui commençait à Paris ou en Europe à 9h du matin et qui se terminait à 5h, heure de Sydney le soir. Compte tenu du décalage horaire, vous vous rendez compte de ce que ça représente. Il y avait donc une intensification des relations. Et en même temps que ces relations se sont intensifiées, il y a eu une intensification de la concurrence. La mondialisation, c'est la compétition à l'échelle du monde. Et cet accroissement de compétition a entraîné des changements profonds dans les acteurs de la vie économique, et en particulier la nécessité d'une adaptation constante aux conditions nouvelles de la vie économique, politique et sociale du monde.
Alors sur l'aspect de l'adaptation, on le verra dans un autre volet de notre entretien consacré à cette question, comment réformer la France, particulièrement avec l'actualité que nous connaissons, vous aurez de quoi l'illustrer. Mais la mondialisation, si je vous suis bien, c'est donc une réduction de l'espace vers un monde fini et un décloisonnement intérieur.
Plus exactement, c'est une augmentation de l'espace. Ce n'est pas une restriction de l'espace. C'est l'espace mondial qui est à la disposition de tous les acteurs de la vie économique.
Est-ce que c'est une extension, la mondialisation, d'un modèle particulier, du modèle américain, par exemple ?
Pas du tout. Ça n'a rien à voir. À partir du moment où les technologies modernes se sont développées, je faisais allusion aux satellites et à l'ordinateur, et vous aviez automatiquement un changement dans les relations qui s'établissaient auparavant dans le monde. Et vous devez ajouter deux autres facteurs. Le premier, c'est la libération des échanges. Le protectionnisme très répandu dans le passé disparaît. Et les produits, les services peuvent s'échanger librement dans le monde. Et à côté de ce premier phénomène, vous avez le fait que les États n'interviennent plus, que c'est l'activité spontanée des entreprises, des individus qui se manifestent. Et vous avez aussi un autre phénomène, c'est que les entreprises peuvent désormais opérer en plusieurs points du monde. L'entreprise auparavant était localisée et à partir de là, elle avait des relations avec d'autres parties du monde. Aujourd'hui, l'entreprise peut être délocalisée. Il est possible de faire tel produit aux États-Unis, tel autre en Chine, tel autre en Inde, de composer les produits à partir de ces pièces détachées et d'intervenir ainsi dans les échanges internationaux.
Des sociétés qui deviennent de plus en plus de cette sorte, un peu anonymes, enfin des sociétés plateformes qui se composent et se recomposent très simplement.
Les sociétés ont un nom, un état-major, une localisation, mais leurs activités se déploient dans le monde et se délocalisent.
Donc c'est une nouvelle répartition du travail aussi.
Exactement.
Un nouveau partage du travail. Est-ce que vous l'aviez senti à l'époque où vous étiez aux commandes de notre pays? Est-ce que vous aviez senti que ça allait prendre la mesure que l'on connaît aujourd'hui? Est-ce que c'était prévisible, autrement dit?
Je savais qu'il y aurait de grandes modifications dues au fait que déjà, dans les années 70, la liberté des échanges commerciaux s'était considérablement développée. Le Kennedy Round, puis le Tokyo Round, la suppression plus ou moins totale des droits de douane, des contingents, le fait que les contrôles d'échange s'estompaient progressivement. Toutes les conditions étaient donc remplies pour une échelle différente des transactions économiques et financières. Je le ressentais, bien évidemment, et je le ressentais comme économiste. Mais j'ai vu vraiment la mondialisation apparaître en 1985 dans les réunions de Davos où les pays appartenant à des continents très différents, les pays ayant des niveaux de développement très différents, qu'il s'agisse des Européens, des Russes, des Latino-Américains, tous ces pays qu'ils soient développés ou en voie de développement, venaient dire que la mondialisation leur apportait des chances, des opportunités de croissance considérables.
Donc ce qui contrecarre l'idée reçue que la mondialisation se fait toujours au profit de quelques-uns, au détriment du plus grand nombre.
J'ai toujours entendu tout le monde dire que l'on bénéficiait de la mondialisation, et ce qui m'a frappé à Davos en 85, c'était les discours des chefs d'État et de gouvernement des pays d'Amérique latine, par exemple, qui disaient « nous ne voulons plus entendre parler de protectionnisme. Nous voulons aujourd'hui un grand marché libre ».
Le fameux accroissement du fossé Nord-Sud, alors, qu'en faites-vous ?
Eh bien, le fossé Nord-Sud ne s'accroît pas lorsque les pays qui sont moins développés s'adaptent et entrent dans un processus de croissance. Et ce sont les échanges extérieurs qui sont souvent le facteur de cette croissance et de ce développement. Le fossé s'accroît entre ceux qui s'adaptent et ceux qui ne s'adaptent pas. Et ce n'est pas simplement le monde développé et le monde sous-développé. Dans le monde développé, vous avez des pays qui prospèrent parce qu'ils s'adaptent et d'autres qui végètent parce qu'ils ne s'adaptent pas.
Il y a une recette à l'adaptation ?
La volonté des hommes. La politique des États, ne pas supporter de rester en dehors d'un mouvement général qui apporte, comme je vous le disais, des opportunités de développement.
On connaît la fameuse théorie des avantages comparatifs selon laquelle donc tout le monde profite de cette mondialisation. Est-ce que ce n'est pas une idée qui relève aussi un peu de la pensée unique, puisque la pensée unique, on la décrit comme étant cette idée qui postule justement le fait que le libéralisme et donc la mondialisation sont nécessairement, fatalement, des idées de progrès.
Ne confondons pas la mondialisation et le libéralisme. La mondialisation, c'est un fait incontournable. La mondialisation, c'est la liberté des activités économiques, la liberté des échanges. Ce n'est pas le libéralisme qui est une doctrine. Ce n'est pas la même chose. Et vous pouvez être un libéral au meilleur sens du terme, c'est-à-dire chercher à favoriser le développement par l'intensification des échanges, sans être un libéral acceptant la loi de la jungle. Voilà pourquoi il n'y a pas de mondialisation sans une certaine régulation. l'adoption de règles du jeu qui, cette fois, sont mondiales, qui sont mises en œuvre par tous les pays qui désirent et limiter les excès qui peuvent naître d'une liberté absolue.
À contre-courant de cette tendance, quel regard portez-vous, par exemple, sur la nationalisation du secteur pétrolier en Bolivie ? Et le fait que l'État veuille remettre la main sur une richesse nationale ?
Ça, c'est la possibilité pour un État de posséder ses propres richesses.
Ça vous semble souhaitable ?
Moi, ça ne me gêne pas.
Ça ne va pas à l'encontre de cette évolution ?
Si ce pays, qui a repris le contrôle de son pétrole, l'exporte et joue son rôle dans les échanges internationaux. La mondialisation, ce n'est pas forcément la privatisation partout. C'est un espace sans barrière. C'est un espace qui est à la disposition de tous les agents de l'activité économique. Ils savent en profiter ou ils ne savent pas en tirer parti.
Elle est ce qu'on en fait.
Exactement.
Uniquement cela.
Exactement. Mais la mondialisation, c'est un fait. Et un fait incontournable. De même que l'adaptation est une nécessité à laquelle on n'échappe pas. Si on ne s'adapte pas vite, tôt ou tard, on devra s'adapter à un coût plus élevé.
Comment inscrivez-vous l'action de l'Union européenne sur cet espace ouvert à tous ? Est-ce que l'Union européenne est là pour créer les conditions, justement, que cet espace soit accessible de la meilleure façon qu'il soit ? Ou bien est-ce que c'est un obstacle un peu contre nature avec la création d'un super Moloch européen ?
L'Union européenne n'a cessé d'intensifier la liberté des échanges et des activités économiques en son sein. C'est comme cela qu'elle s'est développée. L'élargissement n'a jamais été un frein. L'élargissement a été une chance donnée aux membres de l'Union de bénéficier des capacités de développement d'autres pays qui ne faisaient pas partie de l'Union. Évidemment, l'Union a des règles. Par exemple, des règles en matière de concurrence. On ne fait pas n'importe quoi. Il n'y a pas de position de monopole. Il n'y a pas d'entente qui ne soit soumise à un contrôle des autorités de l'Union. C'est tout à fait normal. Ce que je vous disais, il ne peut pas ne pas y avoir des règles du jeu. Mais ceci dit, l'Union européenne n'a que des avantages à s'élargir, que des avantages à s'ouvrir aux relations avec le monde.
Donc la préférence communautaire, qui est l'un des dogmes fondateurs de l'Union, qui a largement été quand même transgressé, vous l'estimez dépassé enfin, dans ces...
La préférence communautaire est née dans les années 50. Nous sommes aujourd'hui en l'an 2006. La préférence communautaire pour les produits industriels n'a jamais existé.
Oui, c'est le secteur agricole.
Pour les produits agricoles. Ça se comprend. Étant donné la situation de l'agriculture à l'époque. Mais cette agriculture a évolué. Et vous voyez de plus en plus des pressions qui s'exercent pour que les pays qui ont fait leur développement agricole ne continuent pas à fixer des prix qui empêchent les importations et qui, par des subventions, s'efforcent de développer leurs exportations. Il n'y a plus une compétition qui est au bénéfice de tous.
Raymond Barre, à tout de suite.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture, ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
éclairage avec Raymond Barre, membre de l'Institut, ancien Premier ministre, avec nous pour justement nous faire profiter de son analyse des sujets économiques, en particulier de cette notion de mondialisation qu'il a distinguée de libéralisme en particulier. Et puis l'Union européenne, dans tout ça, on en dit un mot. Précisément, quel regard portez-vous, Raymond Barre, sur le nom néerlandais, le nom français à l'Union européenne? On parlera tout à l'heure des réformes nécessaires de l'Europe, de cette idée d'adaptation. C'est un frein, une crispation sur l'idée de s'adapter ?
Le nom français et le nom néerlandais s'expliquent non seulement par des facteurs économiques, mais aussi par des facteurs politiques, par des craintes qui se manifestent à l'égard de l'avenir sans qu'il y ait des raisons de les éprouver sur le champ. Ça a été en France le rôle de l'entrée de la Turquie, qui ne peut pas se faire sans négociation et qui se passera au minimum, si les choses vont bien, dans 15 ans. Vous avez vu l'utilisation tout à fait regrettable qu'on a fait de l'adhésion à la Turquie, plus exactement de l'ouverture de négociations avec la Turquie, pour compromettre le oui au référendum.
Donc un débat parasité.
Aux Pays-Bas, il est certain que les problèmes d'immigration ont joué un rôle dans la réaction d'une population qui pourtant était tout à fait ouverte à l'Europe. Mais en ce qui concerne la France, je parlerai surtout de la France, c'est la crainte de la compétition. La France est un pays qui a toujours été protectionniste, qui a cherché par tous les moyens à maintenir des protections. Lorsque le marché commun s'est fait, j'ai assisté à cela, le marché commun, la communauté a été acceptée parce qu'elle apparaissait comme la transposition des frontières protectrices à l'échelle des 6 pays membres. Certes, on pouvait libérer les échanges entre les 6. On pouvait le faire progressivement. On pouvait arriver à un marché commun, à condition que ce marché commun soit isolé du reste du monde.
Donc c'était le même esprit transposé.
Au moment du référendum français, on s'est trouvé en face de l'élargissement. Voilà une communauté qui est passée de 6 à 12, puis à 15, et qui devient maintenant l'Union européenne à 24 membres, en attendant que les Européens soient 25 ou 27, c'est quelque chose qui est inquiétant. On ne voit pas l'aspect positif de l'élargissement. On se dit que le cocon dans lequel la France vivait va diminuer d'influence ou d'importance en attendant de disparaître. C'est cela, le fond des choses en France. Et si vous regardez les divers milieux français, vous constatez que ce sont ceux qui sont le moins ouverts aux considérations internationales et aux échanges, qui se sont repliés sur eux et qui ont fait gagner le non-référendum. Je m'en étais rendu compte au moment de Maastricht. Quelles étaient les zones françaises qui avaient voté contre la monnaie unique? Ce n'était pas les zones françaises développées et riches. C'était toutes les parties de la France qui étaient en retard et qui n'ont pas voulu accepter ce que signifiait la monnaie unique, c'est-à-dire que désormais, la concurrence allait se développer grâce notamment à l'euro. En France, par conséquent, le non, c'est encore une réaction d'arrière-garde à l'égard du protectionnisme.
Est-ce que vous considérez qu'une... La question peut paraître un peu provocatrice, qu'une banque centrale est vraiment nécessaire? Et est-ce qu'elle remplit bien son rôle? Est-ce qu'elle ne retient pas les économies qui sont dynamiques? Et est-ce qu'elle ne pénalise pas les économies qui ne le sont moins?
Je crois qu'il faut faire un raisonnement simple. On crée un marché unique pour les biens, les services, les échanges humains. Ce marché a besoin d'une monnaie. D'où l'idée d'abandonner les monnaies nationales pour bénéficier d'une monnaie unique, l'euro. C'est un avantage considérable. C'est un avantage considérable pour les relations à l'intérieur de l'Union européenne. C'est un avantage considérable pour les relations de l'Union européenne avec le reste du monde.
Sauf qu'on ne peut plus jouer sur le taux de change.
Non, on ne joue plus sur le taux de change. Beaucoup de Français n'aiment pas cela parce qu'ils ont eu toujours une propension à la dévaluation. C'était le ballon d'oxygène qui permettait à des activités qui ne s'étaient point adaptées de bénéficier d'un avantage illusoire de prix. C'est cela qui est caractéristique de la France. C'est ce que j'appelle le triptyque français que nous avons vu se développer depuis les années 30, mais surtout pendant la période 1950 et 1970. Ce triptyque, c'est croissance par l'inflation. C'est d'autre part protection pour éviter les conséquences néfastes de l'inflation sur les échanges. Et en troisième lieu, la dévaluation. Quand la protection ne suffit plus, on cherche un ballon d'oxygène. Et on recommence quelques années après.
Donc politique malsaine.
Non, c'est politique stupide. Qui n'est pas dit d'un grand pays qui doit regarder la réalité en face et qui doit se mettre en état d'y faire face.
Comment le définiriez-vous, le triptyque d'aujourd'hui ?
À la place de la croissance par l'inflation, c'est une croissance saine, durable, qui dépend de facteurs endogènes, le développement de la consommation, le développement de l'investissement, et qui dépend de facteurs extérieurs, la croissance autour de nous, qui se répercute sur la croissance intérieure. Ce n'est pas une croissance artificielle. Ce n'est pas une croissance par stimulation, par la monnaie d'activité superficielle, si j'ose dire. Donc, croissance saine et durable, sans inflation.
Premier volet.
Deuxième volet, ouverture des frontières, développement des relations à l'intérieur d'un grand espace et avec le reste du monde.
Au lieu donc du protectionnisme.
Au lieu du protectionnisme, vous avez maintenant la libération mondiale des échanges. Et en troisième lieu, la stabilité de la monnaie pour assurer, d'une part, la croissance saine et durable, et d'autre part, des échanges qui s'effectuent dans une condition de stabilité monétaire. Voilà le modèle d'aujourd'hui. Et j'arrive à votre question. À quoi sert la Banque centrale ? La Banque centrale sert à maintenir la valeur de l'euro, à éviter les changements de parité et à permettre une croissance durable. Il faut une banque centrale. Mais la banque centrale ne suffit pas. Il faut, à côté de la politique monétaire de la banque centrale, une coordination des politiques économiques qui permettent d'éviter des disparités économiques trop grandes entre les pays membres. Si ces disparités apparaissent, la banque centrale sera obligée de relever les taux d'intérêt ou de prendre des mesures compensatrices.
Ce qui convient à l'Allemagne ne convient pas au Portugal ou à l'Irlande.
Mais ce qui doit convenir à tout le monde. Si l'on veut vraiment que les choses soient sérieuses, cela doit convenir à tout le monde. Ça ne convient pas à la France, on l'a bien vu. La France, parce qu'elle violait les règles du pacte de stabilité, qui est directement lié à la politique monétaire, a demandé à ce que ce soit assoupli. Les Allemands ont demandé également à ce que ce soit assoupli. Vous entendez
les
personnes qui vous disent « Le pacte de stabilité, ça n'a pas de sens. » Eh bien, le pacte de stabilité, avec 3% de déficit budgétaire au maximum et un endettement maximum de 60%, c'est la sagesse. Et tous ceux qui sont contre cela ne sont pas des esprits brillants qui cherchent à s'adapter aux évolutions de la conjoncture. Ce sont des laxistes qui cherchent à échapper aux règles de bonne gestion de la monnaie et de l'économie.
Raymond Barre, la croissance de la zone euro, elle est plutôt assez terne, assez basse.
Mais oui.
On va en zone Asie, on atteint presque des croissances à deux chiffres, et puis en dehors aussi, aux États-Unis également.
La croissance euro n'est pas basse à cause de l'action de la Banque Centrale Européenne, comme on l'entend ici ou là. L'Allemagne a eu le contre-coup très violent de l'unification, qui lui a demandé des efforts considérables et un déficit budgétaire massif, contre lequel le nouveau gouvernement s'efforce d'ailleurs de lutter avec beaucoup de courage. Je signale que le gouvernement est double, puisqu'il a à la fois, il unit le SPD socialiste et la démocratie chrétienne, la CDU. La France a une croissance faible pour des raisons qui tiennent au fait qu'elle exporte moins que par le passé. Je veux dire, on verra des chiffres qui augmentent d'une année sur l'autre, mais quand vous étudiez la structure des échanges, vous vous rendez compte que les exportations françaises sont mal positionnées tant sur les marchés que sur les produits. Et c'est cela qui fait que nous ne réussissons pas non seulement à bénéficier des exportations, mais à profiter de l'essor des exportations dans le monde.
Contrairement à l'Allemagne, par exemple.
L'Allemagne, elle, en profite. Et puis la France est en retard parce qu'elle a toujours donné la préférence aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses sociales sur les dépenses d'investissement. À force de vouloir payer un quart de la force de travail sur des postes d'État fonctionnaires, à force de développer les dépenses sociales sans demander comment elles pourraient être financées. Et lorsque l'impôt ne suffit pas, les dépenses sociales sont financées par l'emprunt. La propension de la France, c'est la propension aux dépenses de fonctionnement inutiles, pour une large part. Et c'est l'insuffisance des dépenses d'investissement. Regardez les chiffres, vous vous rendrez compte que depuis une dizaine d'années, l'investissement en France est stagnant, alors qu'il augmente dans les autres pays.
Ce qui nous amène bien sûr, Raymond Barre, à notre second thème de discussion consacré à cette question : comment réformer la France ? Merci Raymond Barre.